Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business avec Stéphane. Stéphane tout seul aujourd'hui, Patrice étant en déplacement afin d'essayer de ramener le beau temps. Vous savez, on en parle régulièrement. Voilà, RLP Business, l'émission de Radio Libre en Périgord sur l'économie, le management, l'activité commerciale. Et aujourd'hui, nous recevons Martin Rococave, le vice-président des jeunes agriculteurs. On va pouvoir parler de plein de choses. Martin, bonjour, ça va ?
Bonjour.
D'accord, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va, ça va. Bon, alors, écoutez, on va se lancer, on va faire les actualités. Petit produit de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
3,2 milliards pour l'Ukraine, 2 milliards pour McKinsey, 500 millions pour le Brésil et l'Amazonie, l'aide publique au développement, l'APD, qui représente 15,1 milliards en 2022, 1 milliard pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon, et nous, je dis bien nous, ici en France, et nous. Diminution des indemnisations chômage, travail forcé en échange des minima sociaux, regard appuyé du gouvernement vers les livrets A et autres assurances vie, velléité de taxation des rentes, désagrégation de l'hôpital, du système de santé, effondrement de l'école, indigence du système de justice, fermeture des bureaux de poste et des représentations de l'État dans les campagnes. Pourtant, les taxes et les impôts, il y en a, et même beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. Et c'est peut-être aussi un problème quand on est en situation de concurrence avec, disons-le, des fournisseurs qui importent des biens et des produits de pays moins régulés, moins taxés, et donc qui produisent moins cher, par exemple, pour finir dans nos assiettes, comme les poulets ou les œufs d'Ukraine. Mais ce n'est qu'un exemple. On peut d'ailleurs s'interroger sur ce besoin viscéral de nos sociétés de produire en grande quantité des contenus à la qualité déplorable qui, de manière évidente, nous font beaucoup plus de mal que de bien. Alors, les poulets, on en a vu d'ailleurs quelques-uns dernièrement, avec des agriculteurs autour. Il y a même un jeune coq qui s'est fait courser au salon de l'agriculture. Voilà, sans commentaire. Et donc, ça râle, l'argent promis n'est pas arrivé, les grosses structures écrasent les petites, les distributeurs prennent leurs marges et les producteurs locaux, eh bien les producteurs locaux, on en parle, Martin, les producteurs locaux dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils disent ?
Mais les producteurs locaux, j'espère que vous l'avez remarqué dernièrement, les semaines passées et les mois passés... Sur les mobilisations au bord des routes.
Oui, ils ne sont pas contents, on les a vus un petit peu.
Pas trop.
Bon, et on va regarder pourquoi ils ne sont pas contents, on va essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas contents, puis on va essayer de regarder effectivement ce qui nous attend et comment ça va évoluer. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Alors, Martin Rococave, vice-président des JA, jeunes agriculteurs. Alors déjà, tout de suite, là, pour qu'on sache ensuite d'où vous parlez et qui vous êtes, expliquez-nous un petit peu là d'où vous venez, ce que vous faites, qui êtes-vous présenté, dites-nous.
Donc voilà, je m'appelle Martin Rococave, oui. Je suis agriculteur sur la commune de Sagnac, juste à côté de Périgueux.
Oui.
Je suis installé depuis le 1er janvier 2021. Je suis associé avec mon père, on fait des fraises sur environ 2 hectares et demi, une vingtaine de bovins et des céréales sur une petite surface.
D'accord.
On commercialise nos fraises en vente directe sur le marché de Périgueux le mercredi et le samedi, et le reste de la production à la coopérative Socave à Vert.
D'accord.
La viande est vendue on passe par un marchand de bestiaux, et les céréales sont toutes vendues en coopérative.
D'accord. Ok. Vous êtes passé par l'ISA agricole qui est derrière nous, là.
C'est ça. J'ai fait un bac pro CGEA, donc adoniminiante élevage. J'ai ensuite effectué un BTS AXE en alternance.
D'accord.
AXE est plutôt axé sur la comptabilité.
D'accord. Oui, l'administratif français, oui, pour c'est pouvoir ça. Gérer tout ça. Oui,
aujourd'hui,
d'accord.
On passe un temps énorme sur nos exploitations à rédiger de la paperasse.
Moi, je crois que c'est encore pire que les autres chez vous, parce qu'il y a beaucoup de subventions, beaucoup de demandes d'autorisation, de régulation.
C'est sûr que les sous, on ne les obtient pas comme ça. Il y a des dossiers à remplir. On fait tout pour nous décourager de le faire.
Ouais. Alors, et puis ensuite, le syndicalisme, les JA, les agriculteurs, qu'est-ce que c'est ?
Le syndicalisme, les jeunes agriculteurs, c'est le seul syndicat qui est dédié 100% à la cause des jeunes.
D'accord.
En Dordogne...
Jeunes, moins de 25, moins de 30, moins de 40 ?
Moins de 40.
D'accord.
En général, jusqu'à 38 ans. Et on va à la rencontre des jeunes dans les lycées, on organise des manifestations pour aider les jeunes, on négocie des chartes d'installation, des avantages pour les jeunes.
Mmh.
On est un syndicat politique indépendant.
Mmh.
On a des jeunes en Dordogne qui nous représentent au niveau national, qui siègent à Paris. Après, vous avez sûrement entendu parler de Terre en Fête, qui est organisée tous les ans le dernier week-end de juillet, où on accueille à peu près 30 000 visiteurs sur 2 jours.
Mmh. Ouais, bah, tout à fait. Bah, la radio relaie, je crois, et relaiera cet événement fin juillet. Ok, et donc, agriculteurs, on en a beaucoup vu, hein, comme je l'ai dit un peu cyniquement durant la chronique de la semaine, il y a eu des confrontations avec les forces de l'ordre, il y a eu du lisier qui a circulé un petit peu, des pneus, de la paille, on vous a beaucoup vu dernièrement, mais moi j'aimerais comprendre, en fait, c'est quoi le problème là, actuellement là ?
Après, pour revenir sur les confrontations avec les forces de l'ordre, je pense que on a vraiment été exemplaires. Il n'y a eu aucun débordement pour notre part en Dordogne, du moins. Mm-hmm. Il y a eu une super entente. Les manifestations, si elles se sont si bien déroulées, c'est parce que justement, on était en bonne entente avec les forces de l'ordre.
Mm-hmm.
Pour en revenir aux mobilisations, c'est un ras-le-bol. La seule loi aujourd'hui qui nous permettrait de vivre correctement, c'est la loi Egalim. Elle n'est toujours pas appliquée. Est-ce que c'est normal ?
Qu'est-ce que la loi Egalim ?
La loi Egalim, c'est une loi qui a été votée et promulguée en faveur des agriculteurs. À savoir qu'aujourd'hui, dès qu'on vend un produit, c'est l'acheteur qui décide de ce prix. Ce n'est pas nous qui le fixons. Mmh. La loi Egalim, elle est faite pour que le prix soit dicté par le producteur et le premier acheteur doit signer ce contrat pour pouvoir acheter nos produits et revendre par la suite.
Parce qu'en vente directe, c'est le prix du marché, c'est vous qui décidez combien vous vendez sur les marchés, ce genre
exactement,
de choses. Ouais. Par contre, quand vous êtes en coopérative, vous êtes dans le circuit de la grande distribution, et là, on vous fait des petits chantages. Quoi. C'est ce prix-là, ou alors ça ne vend pas.
On livre et on ne sait pas forcément à quel prix ça va être vendu.
D'accord, ok.
Des fois, il y a un laps de temps entre la livraison et le paiement, des fois de 2 semaines. Donc,
il y en a qui sont à 90 jours fin de mois, je crois, d'ailleurs, donc, dans certains secteurs.
Ben pour les céréales, par exemple. Après, en céréales, on peut déjà signer des contrats.
Mm-hmm.
Mais bon, pour ce qui est de la viande, c'est des contrats qui tiennent compte de notre coût de production. C'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vendent leurs produits en dessous de leur coût de production.
Donc, vous devez justifier à votre acheteur de vos frais.
C'est ça.
Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait du commerce, normalement.
Ben, je crois que le monde agricole, c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui.
D'accord. Donc, vous devez, en fait, vous arrivez tout nu devant votre client et vous lui dites, voilà, combien je gagne, combien je dépense, comment je fonctionne. Vous lui donnez tous vos chiffres et tout. Et lui, il vous achète ou pas. Il vous donne ce qu'il a envie de vous donner, en fait.
Ben, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe à peu près, oui.
D'accord. Et vous avez une autre source de rémunération qui sont les subventions, les demandes de Bruxelles. C'est vrai, ça, que Bruxelles vous donne de l'argent, des fois, pour ne pas cultiver certaines choses ou pour encourager certaines productions ?
Ben, c'est la politique agricole commune.
Voilà ce qu'on appelle la fameuse PAC. Là.
Nous, la PAC, sur mon exploitation, par exemple, le jour où on nous l'enlève, mon exploitation n'est plus rentable.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent pour favoriser certaines productions, c'est vrai. Mais mm-hmm. Du coup, ce prix de PAC,
mm-hmm.
c'est à cause de ça que les prix des denrées alimentaires sont décidés à l'échelon européen ou parfois mondial.
D'accord, ok. Aujourd'hui, ces subventions, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait, en fait, que d'un modèle où on allait produire, faire sa production, on allait la vendre pour se nourrir, soit sa famille, et puis faire sa carrière, sa vie, comme ça, hein, on est arrivé à un système où on se fait subventionner pour vivre, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi, les étapes ?
Je pense qu'il y a eu une époque où on a beaucoup produit, donc il y a eu des quotas qui ont été mis en place, comme par exemple les quotas laitiers, ce qui a été une bonne chose.
Mm-hmm.
Ensuite, comment on en est arrivé là ? C'est une bien bonne question.
Donc actuellement, comme vous l'avez dit, les manifestations sont quand même pas trop mal passées. J'ai vu quand même quelques gros dégâts, mais il n'y a pas eu de gros affrontements. Ça a été plutôt de l'accompagnement.
Voilà, exactement.
Conclusion, vous avez obtenu quoi ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Pas grand-chose.
D'accord. Bon, ok. Le pas grand-chose, qu'est-ce que c'est ?
Pas grand-chose. Les premières annonces qui ont été faites par le gouvernement, comme par exemple pour le gasoil, on sait qu'elles ne sont toujours pas appliquées.
Donc le gouvernement avait promis quoi pour le gasoil ?
Il avait promis une détaxation du GNR,
oui,
qui n'est toujours pas effective.
Là, effectivement, il y a quelque chose, je crois, c'est qu'il a le diesel qui est particulier pour les agriculteurs. Il est d'une couleur particulière. Mmh. Il est moins taxé que celui des voitures. Nous, on n'a pas réutilisé pour les voitures, même si c'est quasiment le même. Mais vous, vous avez des réductions parce que forcément, avec votre machinerie, vous en faites une consommation importante.
C'est ça.
Voilà. Et donc, il voulait, comme en Allemagne ou comme d'autres pays, je crois, il voulait remonter les prix, monter les taxes sur ces choses-là.
C'est ça. Donc, du coup, on est passé du gasoil à moins d'un euro le litre il y a quelques années encore à un gasoil qui sera proche de plus en plus du gasoil routier. Donc, ça, c'est vraiment des hausses de charges.
Oui.
Mais qui ne sont pas compensés par la hausse de nos prix de denrées agricoles.
Et ça, c'est des taxes qui vont dans la poche de l'État, en fait.
Oui, exactement.
D'accord. Et c'est des choses qui sortent de votre poche.
Oui.
Oui. OK. Et donc, vous avez promis quoi pour ça ?
Une détaxation, du coup, et en pied de facture. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'attendre un an pour se faire rembourser la taxe sur le GNR.
Donc, il devait vous donner un truc au 15 mars, je crois, c'est ça ?
Mais des dates, il y en a tellement eu d'annoncés que j'ai oublié.
D'accord. Et en tout cas, ces dates sont passées ou sont à venir ?
Ça devait être effectif assez rapidement.
Oui.
Puisque j'ai eu des remontées déjà de personnes qui demandaient ça. Et puis, quand on se fait livrer le gasoil et qu'on demande, mais même les livreurs ne sont pas au courant, c'est que rien n'a été fait.
Ah d'accord, ça a vraiment été que de l'effet d'annonce, je veux dire. Même les distributeurs d'essence n'ont pas été informés qu'ils devaient faire quelque chose.
C'est que rien n'a été mis en place pour l'instant, comme les contrôles qui ont été annoncés pour Egalim. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle qui a été fait.
D'accord.
On a annoncé l'embauche de plusieurs contrôleurs pour aller dans les structures, contrôler et mettre en place des amendes pour les personnes qui ne respectaient pas cette loi Egalim aujourd'hui.
Mm-hmm.
Rien.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec... on ne comprend pas très bien quand on regarde. Il y a plusieurs syndicats pour les agriculteurs ?
Oui, en Dordogne, il y a plusieurs syndicats.
Et au niveau français ?
Au niveau français aussi, mais ça, en général, les mêmes.
C'est la FNSEA,
JIA,
les JIA, oui.
Et CR,
puis, CR,
Coordination Rurale.
D'accord, oui.
Et la Confédération Paysanne.
D'accord. Et en fait, qui c'est qui a passé un accord avec le gouvernement très rapidement ? Là, on a vu un truc à la télévision, ils ont dit rentrez chez vous, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu le premier mouvement de personnes insyndiquées sur l'autoroute, j'ai perdu le chiffre, mais du coup, on n'avait pas grand-chose à voir avec ça. Il y a des personnes aussi à syndiquer qui manifestaient, des agriculteurs qui n'étaient pas forcément appartenants au syndicat, qui se montrait aussi.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu les grosses exploitations d'un côté et les petites de l'autre ?
À notre niveau, en Dordogne, on ne peut pas dire ça, puisqu'on a fait une manifestation plurisyndicale. Mmh. On était plusieurs syndicats présents sur le département et sur les ronds-points.
Et au niveau national, est-ce qu'on peut dire ça ?
Au niveau national, quand on est monté à Paris, une délégation de Dordogne, une cinquantaine de jeunes et de type de la FNSEA, on a rencontré de tout le monde, de tous bords. Il faut savoir qu'on est tous dans le même lot. Au final, on est tous agriculteurs et on demande à peu près tous la même chose.
D'accord. Il n'y a pas un problème avec les grosses exploitations qui sont en train de s'accaparer le marché et les petits souffrent à côté, comme dans d'autres secteurs économiques.
Après, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous appelez grosse exploitation ? Parce qu'on entend souvent ferme industrielle.
Oui, c'est une bonne question d'ailleurs.
Nous, en Dordogne, je pense qu'on est vraiment un type d'exploitation avec une moyenne par hectare de 70 hectares environ. On est encore des petites exploitations familiales. Mmh. Il y a beaucoup d'exploitations, d'ailleurs,
dans ce cas-là. C'est la PME familiale, c'est pas l'agriculture intensive comme on voit aux USA.
Voilà.
Des départements entiers qui sont...
Voilà. Ouais. Ça, je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord. OK. Donc, on n'est pas sur un système...
industriel, d'accord. Vraiment industriel. Après, ça dépend. Si on appelle, moi, ma culture de céréales sur 70 hectares environ, ça, de la culture industrielle parce que je ne suis pas en bio...
Et parce que vous avez un tracteur, non, c'est pas ça qu'on appelle ça, en fait. Voilà. Dans l'imaginaire des gens, c'est pas ça.
Voilà.
D'accord. Alors, il faut savoir que les manifestations françaises, en fait, il n'y a pas eu qu'en France. On en a assez peu parlé dans les médias, mais on l'a vu, hein, y a eu beaucoup de problèmes en Allemagne, en Hollande l'an dernier et cette année, en Suisse, en Belgique, en Pologne aussi, en Italie, en Espagne. Pourquoi, en Angleterre d'ailleurs, pourquoi ces tracteurs partout en Europe actuellement ?
Mais je pense qu'on est arrivé au bout du rouleau, là. Vraiment, on n'en pouvait plus. On était vraiment étouffés par l'accumulation des charges, l'accumulation de...
Donc c'est quoi ? C'est les distributeurs, les grandes surfaces et les impôts ? C'est quoi ?
Les charges, c'est toutes ces petites hausses, en passant du GNR... la suppression de certaines aides au niveau de la PAC.
Mais en Pologne aussi ?
La Pologne fait partie de l'Union européenne.
D'accord, donc ces histoires d'aides et de taxes, elles sont européennes ?
Oui.
D'accord.
Après, on voit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Quand on voit arriver des fraises d'Espagne à 2 euros le kilo, comment on fait, nous, pour se mettre en face? C'est pas possible. La semaine dernière, il y a quelque chose qui est passé pour les cigarettes. J'espère que le prix des cigarettes, c'est difficile à expliquer. Comment ça se fait qu'en Espagne, elle soit à 50 euros la cartouche et en France à 120?
Alors, il y a des choses qui sont européanisées, d'autres non, visiblement, voilà. C'est ça?
Mais du coup, nous, pour les fraises, on peut pas lutter avec...
Et ça, c'est la différence, c'est la main-d'œuvre, c'est ça? C'est le coût de la main-d'œuvre, c'est les charges sur la main-d'œuvre.
Il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a des exploitations qui sont peut-être un peu plus grandes aussi, qui arrivent à mieux rationaliser leurs charges. Mmh. Un accès à l'eau peut-être mieux réparti qu'en Dordogne, par exemple.
Il y a des soucis, on entend beaucoup parler de ça, il y a des soucis pour accéder à l'eau en France.
En France, pas forcément tous les coins, parce qu'il y a des infrastructures qui ont été montées à l'époque pour certains coins.
Je veux dire, vous creusez la phréatique, c'est à vous, vous pouvez y aller.
Non,
c'est
fini. Ça.
C'est fini, ça.
Ça serait trop facile. Aujourd'hui, il y a tout un tas de demandes à faire et c'est pas sûr d'être accepté. Donc, nous, sans eau aujourd'hui, on peut pas y arriver. Moi, en fraise, je suis vraiment restreint au niveau d'eau que j'arrive à pomper l'hiver dans une petite mare où ruisselle l'eau d'un vallon. Mm-hmm. Du coup, je suis pas.
Elle est à vous, la mare?
Oui.
Donc, en fait, on vous autorise à pomper une partie de votre propre mare.
Et on paye des droits de pompage dessus.
D'accord, sur votre eau.
Oui.
Ok, et vous avez le droit d'utiliser que ce qu'on vous a autorisé à pomper.
C'est ça.
D'accord, donc vous êtes rationné en production quelque part?
Ben oui, moi je plafonne à la surface en fraise à cause de l'eau. Je ne peux pas accéder à plus d'eau, donc je ne peux pas en stocker plus.
Alors que c'est la vôtre et...
Enfin, c'est pas la nôtre, l'eau c'est celle de tout le monde. Après, aujourd'hui, on essaye de la ramener le plus vite possible à l'océan. Et si on avait stocké tout ce qui est tombé cette année, je pense que pendant 30 ans, la Dordogne vous aurait laissé tranquille sur le sujet de l'eau.
Vous avez le droit de stocker l'eau de pluie pour l'utiliser ensuite?
Ben, nous, c'est de l'eau de pluie qui ruisselle, quoi, qu'on
oui.
stocke.
Vous avez le droit de, je veux dire, vraiment de faire des containers de stockage d'eau de pluie?
Il y a des poches, des géomembranes qui existent pour stocker l'eau. Après, est-ce que ça suffit pour avoir une production?
Mais légalement, est-ce que c'est autorisé? Ou est-ce qu'il y a aussi, là aussi, des tentatives de contrôle sur...
Je sais que pour les habitations, c'est soumis à contrôle, l'utilisation d'eau de pluie. Après, pour l'agriculture...
Ça commence à venir pour les particuliers, tout à fait.
C'est bon. Ça.
Ok. Bon, donc, effectivement, à concurrence interpays avec les différences de charges sociales, donc de prix de la main-d'œuvre, des régulations européennes et des régulations locales. Un petit point, je voulais aborder. On entend beaucoup les Polonais qui se plaignent par rapport à l'Ukraine. On a vu, durant la manifestation, des camions qui arrivaient d'Ukraine qui étaient vidés ou qui étaient tagués. Qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine, là, au niveau agriculture?
Un contexte de guerre?
Oui.
Je pense que tout le monde a...
Certes, mais en quoi ça influe sur le marché français? Parce qu'ils font venir leur production de là-bas qui...
La production d'Ukraine, c'est vrai que ça a fait effondrer les cours quand les camions, les containers de blé sont arrivés. Mm-hmm. Il y a des pourparlers pour que l'Union européenne fasse rentrer l'Ukraine dans ce créneau-là. Mm-hmm. Est-ce que demain, si l'Ukraine a accès à toutes les aides PAC, est-ce que l'enveloppe va être divisée? Mmh. On ne sait pas. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et
c'est que là-bas, ils ont un salaire à 300-400 euros par mois, je crois. Donc lorsqu'ils produisent des poulets ou du blé, forcément, il est moins cher qu'ici. C'est ça. Et visiblement, ils n'ont pas les mêmes interdictions pour les produits, les engrais, les produits chimiques.
C'est simple. Hein, tous les produits qui nous sont interdits en France, ils sont autorisés dans ces pays. D'accord. À commencer par l'Espagne.
Ah, ça c'est important aussi de le dire, d'accord. Donc en fait, il y a des produits qui sont interdits chez nous.
Nous, on a, pour parler de mon expérience personnelle, on faisait de la fraise plein champ, mm-hmm. donc de la fraise qui pousse dans la terre, la vraie fraise du Périgord.
Ouais.
On utilisait un produit quand même assez toxique, le métham-sodium. Mm-hmm. Ce métham-sodium, pour le bien de tous, il a été supprimé, mm-hmm. pas partout, en Union européenne. Et du coup, nous, on continue à faire des fraises, mais on est obligé de changer tous les ans de place les fraisiers. Donc on passe le double, le triple de temps à changer nos infrastructures tous les ans, déplacer les tunnels, refaire les buts.
Terre,
c'est ça, oui.
D'accord.
C'est un produit qui servait à désinfecter le sol. Aujourd'hui, on l'a plus, donc on est obligé de tous les ans changer de place les fraisiers pour éviter que le sol se salisse.
D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres?
Pour
De produits qui sont interdits ici, qui sont autorisés à l'extérieur.
Mais là, on nous a encore supprimé des insecticides qui étaient homologués d'ailleurs en agriculture biologique.
Le glyphosate, là, c'est ça?
Ah non, le glyphosate, c'est un herbicide.
D'accord.
Le glyphosate, il est exclusivement utilisé après la culture pour nettoyer un sol, c'est-à-dire de toutes ses adventices. Mm-hmm. comme en Dordogne, on voit il y a plusieurs mauvaises herbes qui envahissent nos terrains, comme le datura ou l'ambroisie, qui sont vraiment des plantes allergènes, qui sont déclarées au niveau de la préfecture. Et pour éviter des intoxications ou des allergies, on nettoie nos parcelles avec ce produit. Savoir que le glyphosate n'est jamais appliqué sur une culture ici.
Une autre question, on va passer des choses là, sur les réseaux sociaux, on va les débunker comme ça pour savoir. Est-ce que c'est vrai que vous êtes énormément contrôlé, vérifié, quasiment au centimètre carré sur ce que vous exploitez, les tracteurs sont au GPS, non
Les tracteurs GPS, c'est un confort de travail, c'est vraiment quand on a des journées de 14-15 heures de tracteur, on commence peut-être parfois à avoir mal au bras, mais vraiment. Je connais pas de grand monde qui conduit 15 heures d'affilée.
Non, mais c'est pas une critique du tout.
C'est pour expliquer, voilà. Donc, c'est vraiment un confort de travail. On est contrôlé, oui, toutes les semaines par un satellite qui passe, qui prend en photo nos parcelles, savoir si on a touché une haie, est-ce que la parcelle où on a déclaré en blé, elle est vraiment, est-ce que la jachère est entretenue, est-ce que le cours d'eau n'a pas été curé. Oui, on est pris en photo toutes les semaines.
D'accord, donc ce n'est pas une légende urbaine. Vous êtes pris en photo toutes les semaines par satellite pour vérifier que vous ne faites pas plus de choses que ce qu'on vous autorise à faire et que vous faites bien, respectez bien les contraintes qu'on vous impose.
C'est ça, oui.
D'accord.
Tout à fait.
Non, mais ce n'est pas une vie, ça. C'est le...
Ah ben, on fait attention tout le temps. C'est pour ça que le ras-le-bol, il est vraiment...
Et c'est quoi, c'est pour les impôts, c'est les taxes,
C'est par rapport à la politique agricole commune.
D'accord.
Savoir que quand on nous...
Là, par contre, ça marche, quoi. Les hôpitaux, non. Les écoles, non. Mais ça, ça fonctionne. Satellite et tout, quoi.
D'accord. Satellite.
OK. Bon, OK. Alors, il y a d'autres problèmes dans l'agriculture qui méritent qu'on en parle aujourd'hui pour dire aux gens, là, qu'il y a autre chose qui mérite d'être dit en avant un petit peu. La surveillance, les règles, les papiers, un ou deux jours par semaine d'administratif, je crois.
Oui, minimum. C'est vraiment très important, l'administratif, aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que vous faites encore dans ce métier, Martin ? Il faut en vouloir, quand même, non ?
Mais il faut en vouloir. On voit qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont vraiment intéressés par le métier. On veut vraiment, nous, ce qu'on défend, c'est des exploitations viables, vivables et surtout durables.
Parce qu'aujourd'hui, vous n'y allez plus pour la liberté et l'indépendance. Hein, on va le dire, il y a tellement de régulation et de contrôle. Vous n'y allez plus pour faire fortune ?
Non, on n'y va pas pour faire fortune. Mais c'est vraiment un métier où on est en contact permanent avec la nature. On est notre propre patron, j'ai envie de dire.
Oui, enfin, de moins en moins. Parce
de moins
en moins. De gens qui vous rendez des comptes.
C'est ça. Après, il y a ce contact avec la nature qui reste et vraiment ce métier qui nous tient à cœur de perpétuer souvent la tradition familiale. De reprendre la ferme, même si de plus en plus il y a des installations hors cadre familial, des gens qui viennent de l'extérieur, des reconversions professionnelles qui se tournent vers l'agriculture. Après, si on faisait fortune, ça se saurait.
Ça se saurait, je pense. Ça se saurait, mais si les jeunes là, du lycée agricole à côté, là, vous leur conseillez de faire ce métier-là aujourd'hui ?
J'ai été responsable d'installation pendant plus de 2 ans et. À un moment, j'ai dit que ça me posait peut-être un peu problème, juste avant les manifestations, justement, comment on pouvait envoyer ces jeunes au casse-pipe. Parce que si on leur promet pas des choses de suite, c'est fou d'encourager des jeunes à s'installer pour aller dans une situation financière compliquée. Donc c'est pour ça que nous, au Réseau Géant, on se bat vraiment pour qu'ils aient un avenir meilleur, pour pouvoir continuer à produire français des produits de qualité.
D'accord. Ok. Vous pensez que ça va tenir ? Parce que, par expérience, une société, lorsqu'il y a trop de règles et trop de contraintes sur la durée, ça ne marche pas ? Ça ne tient pas ?
Mais c'est pour ça qu'on avait connu des mobilisations sans précédent.
Bien sûr.
Plus de 300 tracteurs qui étaient présents sur 2 jours.
Oui, mais vous n'avez rien obtenu, vous m'avez dit.
On a monté crescendo, en fait. On a commencé par retourner des panneaux. Je pense que tout le monde en a vu sur le bord des routes.
Ouais.
C'était une action qui a beaucoup fait parler.
Il y a quelques radars qui ont spontanément brûlé aussi.
Oui, ça, jeune agriculteur n'y est pour rien.
Non, mais c'est la combustion spontanée. Là. C'est des matériaux qui
utilisent. C'est même pas forcément des
agriculteurs. Changement climatique, ça.
Que tout le monde était un peu remonté. puisqu'on a
non,
quand même
eu
beaucoup
de l'État. Il y a des révoltes contre les contraintes
de l'État. On a eu beaucoup de soutien de toute la population lorsqu'on était présent sur les mobilisations.
Oui, alors ça, il faut le dire, effectivement, la population française est avec vous. Très c'est clairement, ça. Les gens sont avec vous. Et,
Tout le monde nous soutient.
Oui, c'est vrai.
C'est ce, qui est, c'est ce qu'on retient.
On veut garder nos cèpes, on veut garder nos fraises, notre lait ici. On veut garder ça. Ouais. On n'a pas envie que ça vienne de l'autre bout du monde avec des amphétamines dedans. On n'a pas envie de ça.
Pourtant, les traités qui sont signés et que l'État signe avec les autres pays, c'est ce qui nous attend si on ne prend pas conscience.
Alors, qu'est-ce qu'ils signent ?
Des échanges, comme avec l'Ukraine, les poulets et tout, qui ont servi à financer des...
Ah ben voilà, c'est pour ça que les trucs des Ukrainiens, là, les poulets étaient attaqués. C'est parce que leurs poulets, les élèves, on ne sait pas comment, on ne sait pas si on donne à manger, et puis ils viennent en France en face des vôtres, en face des nôtres.
Qu'on vende les nôtres avant, et puis après, on verra pour le reste.
Ok. Alors, après, dernière petite question. Oui, on en a parlé un petit peu en off avant. Est-ce qu'on s'oriente vers des gens qui vont devenir, si le système ne veut pas d'eux, ils vont faire leur production personnelle, la permaculture, un peu leurs voisins. Est-ce que certains vont dans cette direction-là ?
Bon, après, je pense que c'est quelque chose qui est toujours resté en Dordogne, ancré au territoire, des petites exploitations. Après, est-ce que c'est vraiment un modèle viable et durable ? Je ne sais pas.
Bon. Comment vous voyez évoluer le secteur ? Quelles sont les perspectives du secteur de l'agriculture ?
Mais le secteur, c'est que nos revendications soient appliquées. On a fait quand même remonter plus d'une centaine de lignes à la préfecture. D'ailleurs, on salue le travail du préfet qui travaille avec nous. On l'a reçu sur l'exploitation d'un jeune. Il nous a reçu à la préfecture pour essayer de faire avancer les choses. On voit qu'il est très impliqué pour l'agriculture.
Il vous a écouté et puis il a fait remonter, mais il n'est pas décideur.
Il peut essayer quand même d'influencer les personnes pour nous aider à signer des contrats.
Mais l'agriculture, au jour d'aujourd'hui, ça va dans quelle direction ? Je veux dire, on aura toujours nos fraises dans 10 ans, on aura toujours nos salades, nos poulets, nos œufs.
Mais je l'espère, oui. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours au sein des jeunes agriculteurs.
Ok. Il y a un programme qui arrive, là, des manifestations à venir, des échéances, des dates ?
Mais comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la mobilisation ne s'est jamais arrêtée, on est toujours présent.
Oui.
Ça se voit peut-être pas forcément, mais il y a vraiment un travail de fond qui est présent.
D'accord.
On continue à rencontrer des élus, des personnes politiques pour continuer à faire avancer les choses. Après, des mobilisations, comme vous avez pu le voir sur le bord des routes, pour l'instant, c'est pas prévu.
D'accord.
Mais on n'exclut pas peut-être le retour en force des agriculteurs.
D'accord. Si jamais les promesses du gouvernement ne sont pas tenues et que les...
Mais je crois qu'on est monté crescendo. J'espère qu'on n'aura pas à faire plus pour essayer d'obtenir au moins quelque chose.
Ouais. Bah, écoutez, on vous le souhaite. Martin Cocave, merci beaucoup d'être venu avec nous, d'avoir répondu à nos questions sans langue de bois. Et puis, vous, individuellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Bah, de réussir ma saison de fraises.
Ouais.
Et
elles sont bonnes cette année, là, c'est bien, ça part bien.
C'est bien parti, oui. Et d'accord. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse vivre de son métier et travailler librement.
Merci. Merci Martin. Martin Rocca, DJA. À la semaine prochaine, au revoir.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Des trésors satinés.
RLP
Radio Libre en Périgord.